Chapitre 79. Saga suit le flot ininterrompu des véhicules. Son épaule gauche frotte le mur en béton. Tous les 100 mètres, elle croise des cadres en acier avec des ventilateurs en forme de tubes suspendus au plafond. L'air en sort en rugissant comme une gigantesque cascade. L'enfilade de néon des deux côtés du tunnel donne l'illusion de progresser à l'intérieur d'un boyau. Si ses calculs sont bons, il reste un peu plus d'un demi-kilomètre jusqu'à Nordhull. L'air est saturé de gaz d'échappement. Plusieurs masques de protection bleu clair gisent par terre au pied du mur. Un poids lourd s'approche à grande vitesse. Saga voit ses feux jaunes clignoter au-dessus des voitures qui le précèdent. Le large chargement de la remorque est constitué d'énormes pièces métalliques qui semblent appartenir à une éolienne. Saga se colle le plus possible contre le mur et presse sa joue contre le béton brut. La lumière de ses phares se projette maintenant sur le bitume. Elle retient son souffle. Le poids lourd passe en trombe. La remorque oscille sur la chaussée et la rafale de vent qui s'ensuit la déséquilibre, la forçant à faire un pas de côté. Un gobelet de chez McDo vole dans un tourbillon de poussière et de saleté. Elle continue d'avancer. Enjambe les restes d'un pneu, s'arrête devant la sortie de secours 24, tousse et crache par terre. Elle ouvre la porte en acier et pénètre dans une cage d'escalier qui empeste les excréments et la nourriture avariée. Le sol est jonché de sacs en plastique sale, de matelas, de boîtes de conserve, d'emballages de papier alu et de sachets de bonbons vides. Un homme barbu portant plusieurs couches de vêtements et un pantalon imbibé d'urine est en train de somnoler dans un fauteuil. Un peu plus loin dans l'escalier, une femme lui hurle dessus. Sa voix est rauque et elle frappe la rampe métallique avec sa main. Saga ramasse un sac en plastique bombé sur le sol, l'ouvre et voit qu'il contient des vêtements et des bavoirs en crochet pour un bébé.
« Je veux mon putain d'argent !»
braille la femme.
« Prends ta gueule !»
marmonne le barbu sans ouvrir les yeux. Saga ramasse un autre sac, l'ouvre et en retire un jean délavé et un imperméable bleu à pois rouge.
« Je vais les tuer !»
sanglote la femme tout en commençant à descendre l'escalier. Saga embarque l'imperméable, puis tourne les talons, regagne le tunnel et reprend sa route. Un rat noir court le long du mur devant elle et disparaît dans une bouche d'aération. Tout en marchant, elle enfile le manteau. Juste après la sortie de secours 23, le tunnel se divise comme une langue de serpent. Elle choisit la voie de gauche. Un sac en plastique est coincé dans l'un des ventilateurs du plafond et flotte dans le flux d'air comme un drapeau déchiré. Le chauffeur d'un camion klaxonne à son passage. De la poussière s'échappe de sa benne et, à travers le nuage qui plane un instant dans l'air, Saga aperçoit enfin la lumière du jour. Elle ralentit à l'approche de la sortie, ajuste ses vêtements et rentre ses cheveux dans sa capuche. Le carrefour de Nordhull est l'un des plus grands de Stockholm. Les voitures circulent sur plusieurs niveaux et dans différentes directions. Aucun policier n'est en vue. Elle se faufile dans la circulation sous le viaduc de la E20 et ralentit sur l'aire piétonne qui longe le talus herbeux. Des gens font du jogging, promènent leurs chiens ou poussent des landaus. Un groupe d'enfants vêtus de gilets jaunes vifs se dirige vers Haga Park. Plus loin, l'eau du lac Brunsviken scintille à travers les feuillages. Saga emprunte le sentier ombragé à côté du restaurant Stahl Mestari Gordon. Les sirènes de plusieurs véhicules de secours hurlent depuis l'autoroute. Derrière le restaurant, une rampe en béton longe un mur délabré et conduit à l'entrée des marchandises. Saga a l'impression d'être un rat lorsqu'elle se glisse derrière et s'assied sous le quai de chargement, derrière une rangée de poubelles. Des mégots de cigarettes flottent dans un vieux pot de peinture rempli d'eau. 5 conteneurs à roulettes aux parois en filet sont rangés contre la façade jaune. Elle tente de rassembler ses idées. Elle ne pensait pas que Juna la trahirait, même si elle n'excluait pas cette possibilité. Maintenant, elle a raté l'occasion de laver son nom, d'expliquer l'affaire selon son point de vue. Elle a l'impression que ses pensées sont noyées sous la glace. Tout le monde à la NOA doit être absolument convaincu qu'elle est impliquée dans les meurtres. Sinon, il n'aurait jamais pris la décision de la neutraliser alors qu'elle avait l'intention de se rendre.